RCF.
Et il est 18h10 sur RCF, c'est l'heure du 18-19 en région. Nous retrouvons Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonsoir à tous, 18-19 avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Au sommaire de notre édition ce soir, on va bien sûr retrouver comme tous les mercredis...
On est le mardi Jean-Pierre, n'allez pas trop vite dans la semaine.
Mardis, mais c'est vrai qu'à force d'anticiper, on ne sait plus trop.
Mais on est bien mardi, je vous l'assure.
On est bien mardi. Et c'est Mémoire chrétienne.
Avec Jean-François Boulanger, effectivement, qui nous emmènera à Chartres pour un troisième épisode. Ça ne sera pas le dernier. Ce soir, on parlera du pèlerinage, de chrétienté dans Mémoire chrétienne. Un maire qui vous parle, on ira dans les crêtes près ardennaises, Jean-Pierre.
Oui, avec Jannick Lombard, qui est maire de Launois-sur-Vence et qui sera avec nous.
Au programme également un zoom global sur le spectacle Métamorphose au profit de l'association Ensemble par enfants dit. C'est le vendredi 17 novembre que le rendez-vous est donné à la chapelle de Saint-Mémy. Et puisque l'on parle de chapelle pour les habitués de la maison Saint-Sixte de Reims, aujourd'hui à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, il y avait une initiative organisée qui s'appelle Une messe pour les curieux. Notre stagiaire à la rédaction, Manon Bréval, y a participé. Elle nous expliquera quel est ce concept, comment ça s'est passé sur ce temps de midi ici à l'ICP Campus de Reims. Et puis pour terminer, Jean-Pierre, si vous le voulez bien, on ira dans les Ardennes à la rencontre de Damien Lerouge, qui est chargé de communication à Cap Emploi 08 en lien avec la ville de Charleville-Mézières et le maire Boris Ravignon. Ils organisent ensemble le village handicap à Charleville. C'est pour l'intérêt commun parce qu'on sait que politiquement, ils n'ont pas la même couleur.
Absolument. On va d'ailleurs rappeler, puisque vous évoquez les Ardennes, qu'elles sont en vigilance jaune crue. Les pluies récentes entraînent des risques de crue qui font monter les eaux de l'Aisne. Le pic de crue est attendu demain dans la matinée. Un risque de crue, mais de faible ampleur, est attendu également dans le nord des Ardennes. Là encore, le pic de crue devrait être atteint demain, 15 novembre. Il faut rappeler que le barrage à Asfeld est submergé, mais heureusement, il n'a pas cédé, c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est ce que disent Voies navigables de France, en tout cas Jean-Pierre. Et savez-vous qu'il n'y a jamais plu autant en France que sur ces 26 derniers jours?
Ah oui, mais vous me l'apprenez, mais on l'a souvent entendu. Mais heureusement, le département des Ardennes, qui avait été victime de crues très importantes, en particulier en 95, n'est pas touché comme le Pas-de-Calais.
À 18h13, on commence par retrouver notre chroniqueur. Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Chartres, épisode 3, le pèlerinage de la chrétienté. Il y a différentes manières de se rendre en pèlerinage à Chartres, mais celui qui est le plus connu et sans doute le plus fréquenté aujourd'hui est le pèlerinage dit de chrétienté. Dans la perspective de l'émission Mémoire chrétienne, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir de quelle façon ce pèlerinage s'inscrit dans la mémoire de ce parcours qui a commencé bien avant lui.
Alors effectivement, ça a commencé bien avant ce pèlerinage de chrétienté, mais on va commencer quand même par présenter le pèlerinage en tant que tel pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Il a été fondé par le Centre Charlier. Le Centre Charlier était d'obédience traditionnaliste et l'idée était surgie parmi les membres de ce centre lors d'un pèlerinage à Ménil-Saint-Loup. Ménil-Saint-Loup, c'est dans l'Aube, donc pas très loin de chez nous, sur la tombe du Père Emmanuel en 1980. On viendra peut-être un jour sur le Père Emmanuel.
Mais pourquoi pas, ça sera l'occasion.
Exactement. Et donc il trouve aussi son inspiration dans un autre pèlerinage, cette fois-ci qui se trouve en Pologne. C'est le pèlerinage très connu de Częstochowa, considéré comme le pèlerinage national polonais, quand on sait que le catholicisme joue un rôle extrêmement important dans ce pays. Mais il cherche aussi à s'inscrire dans la mémoire des pèlerinages précédents.
Alors, quelques précisions s'imposent. Jean-François Boulanger, pouvez-vous nous préciser davantage sur quelle mémoire locale va tenter de s'appuyer ce pèlerinage de chrétienté?
Alors, ce pèlerinage dit de chrétienté s'inscrit en fait effectivement dans une mémoire beaucoup plus large que le pèlerinage étudiant auquel nous avons déjà consacré une émission. En fait, cette mémoire du pèlerinage remonte au début du Moyen-Âge. Le site de l'association présente l'histoire de la pèlerinage en évoquant d'abord la relique du voile de la Vierge. Je cite. En 879, Charles le Chauve, roi de France et empereur d'Occident, donne à Chartres une relique insigne qu'il tient de son grand-père Charlemagne, le voile de la Vierge. Et selon la tradition, je cite toujours justement ce que dit le pèlerinage de chrétienté de lui-même. Selon la tradition, ce voile, porté par la Sainte Vierge lors de l'Annonciation et de la Nativité, aurait été conservé à Constantinople avant d'être donné par l'impératrice d'Orient. Il s'agit d'un morceau de soie crème uni de 5,35 m sur 0,46 m, daté du 1er siècle. Et je cite toujours, « S'il est épargné par l'incendie de 1194 qui ravage la cathédrale et sera l'origine indirecte de la reconstruction magnifique que nous pouvons admirer aujourd'hui, c'est-à-dire la cathédrale telle que nous la connaissons, en restant protégé par des moines pendant 3 jours dans la crypte, il n'échappe que partiellement à la fureur révolutionnaire de 1793. Découpé, seuls 2 morceaux sont parvenus jusqu'à nous, visibles aujourd'hui dans le grand reliquaire, dans la chapelle obsidiale de gauche ou le petit reliquaire à la crypte. »
On va donc se situer dans la lignée du pèlerinage médiéval.
Absolument. Hein. Et je continue ce que dit le site de Notre-Dame de Chrétienté. Le culte de Notre-Dame à Chartres prend très vite une ampleur gigantesque. Les miracles qui se multiplient entretiennent la foi vive du Moyen-Âge. Marie guérit des maladies, protège la vie et veille sur les femmes enceintes. Mais justement, au-delà de toute la chrétienté, c'est toute la chrétienté médiévale que l'on exalte, les cathédrales gothiques évidemment parce qu'on est à Chartres, mais aussi l'école cathédrale de Chartres avec Bernard de Chartres, dont vous connaissez au moins une phrase qui est devenue célèbre, « Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants ». Vous connaissez peut-être cette phrase-là, elle a donné son titre à une émission de France Inter. Et en fait, ça signifie pour Bernard de Chartres que justement les philosophes du Moyen-Âge ne sont que des nains qui se sont juchés sur les épaules des géants de la philosophie chrétienne antique, mais aussi sur la philosophie grecque. Et donc, il a insisté beaucoup sur la complémentarité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est donc de tout cela, d'une certaine façon, que ce pèlerinage de chrétienté veut se revendiquer.
Cependant, Jean-François Boulanger, est-ce que ce pèlerinage de chrétienté se réfère uniquement au Moyen-Âge ?
Non, parce qu'il met l'accent sur la continuité de la tradition pèlerine à travers le temps, mais en disant justement qu'elle a toujours existé, hein. Et notamment en citant une lettre de Louis Martin. Alors, qui est Louis Martin ? Eh bien, c'est le père de Thérèse Martin. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais Thérèse Martin, en fait, c'est sœur Thérèse de l'enfant Jésus, Sainte Thérèse, si vous préférez. Et donc, voilà ce que disait Louis Martin à sa fille dans une lettre. « Prie, ma chère petite, pour le succès du pèlerinage de Chartres, dont je vais faire partie, et qui groupera de nombreux pèlerins de notre belle terre de France au pied de la très sainte Vierge, afin d'obtenir les grâces dont notre patrie a tant besoin pour se rendre digne de son passé. » Donc voyez, on s'inscrit dans cette continuité par le biais de ce personnage finalement pas très connu. Et puis évidemment, on présente aussi Peggy, présenté comme l'initiateur du renouveau, mais en citant aussi des écrivains de la même époque qui se sont également rendus à Chartres, Huysmans, Jacques et Raïssa Martin, Léon Blois, Paul Claudel, François Mauriac sont également mentionnés. Par contre, on remarquera que le pèlerinage étudiant, justement, lui, n'est pas cité.
On revient sur le pèlerinage de chrétienté. Quand a lieu le premier pèlerinage ?
Alors, le premier pèlerinage a lieu à la Pentecôte 1983. Et les premières années, sauf en 1985, la messe de clôture a lieu à l'extérieur de la cathédrale en raison du refus formulé par l'évêque de l'époque, Mgr Kuhn, de permettre une messe en rite traditionnel, rappelons qu'on a affaire à des traditionalistes, au sein du sanctuaire à l'époque.
Comment le pèlerinage va-t-il se normaliser et se formaliser, j'allais dire aussi, dans les relations avec le diocèse de Chartres ?
Alors, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, en 1989, une scission a lieu dans la mouvance traditionnaliste, et donc ceux qui rompent avec le Vatican à l'époque, c'est l'époque de l'ordination par Mgr Lefebvre d'évêques donc dissidents, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis vont du coup organiser leur propre pèlerinage, dont on reparlera peut-être un jour. Et la même année, à la suite du motu proprio Ecclesia Dei, la messe de clôture peut finalement avoir lieu à l'intérieur de la cathédrale. Et dans un deuxième temps, en 1991, le pèlerinage commence à prendre son autonomie vis-à-vis du centre Charlier, avec la création justement de l'association Pèlerinage de Chrétienté. Et en 1993, cette association remplace donc le centre Charlier dans l'organisation du pèlerinage, et donc le pèlerinage va prendre à ce moment-là le nom qu'il a encore aujourd'hui.
Quand ce pèlerinage prend-il son essor, Jean-François ?
Alors, il prend son essor dans les années 90, quand les relations avec l'épiscopat français s'améliorent. C'est ainsi qu'en 1992, Monseigneur Perrier, évêque de Chartres, célèbre la messe de clôture. Et les fidèles, qui craignaient de ne pas être en bon rapport avec l'Église officielle, sont encouragés d'une certaine façon à se rendre au pèlerinage par cela. Mais c'est surtout en 2010 que, à partir de 2010, que le pèlerinage franchit régulièrement la barre des 10 000 pèlerins. Avec une configuration particulière qui consiste à distinguer différents types de pèlerins effectuant chacun le pèlerinage selon leurs caractéristiques. Et quatre routes sont proposées aux pèlerins en fonction de leur âge, notamment. Les adultes marchent l'intégralité des 100 km entre Paris et Chartres, tandis que les autres ont un itinéraire adapté avec des parties de trajet effectuées en bus. Donc quatre routes, la route des adultes pour les plus de 16 ans, qui effectue entre 30 et 35 km par jour.
C'est déjà une belle marche.
C'est une belle marche, oui. La route des familles, qui regroupe tous les âges en famille, à raison de 15 à 20 km par jour.
Il faut quand même être en bonne forme.
Oui, c'est ça. Hein. La route des pastoureaux, c'est les jadots, les pastoureaux, hein, de 13 à 16 ans. Et enfin, la route des enfants de 6 à 12 ans, qui ont le même rythme que les familles, c'est-à-dire quand même de 15 à 20 km par jour.
Et quand on sait que les enfants les font souvent avec énergie en courant, ils font peut-être le double de kilomètres.
C'est possible.
Avec les allers-retours. Ces dispositions donnent au pèlerinage un aspect particulier,
absolument,
Jean-François.
Absolument, hein, c'est incontestable. Et d'abord, une moyenne d'âge qui n'est que de 21 ans. Alors, ça semble peu, parce que je ne veux pas être méchant avec l'ensemble des pèlerinages, mais c'est souvent beaucoup plus. Mais ça s'explique si on tient compte du fait qu'il y a des familles entières et qu'un nourrisson, ça fait un an.
Hein, ça effectivement, compte, voilà. Ça baisse la moyenne.
Ça baisse la moyenne, hein. Et donc, avec, par contre, une affluence croissante qui est liée à cela, c'est-à-dire que les familles sont, tout le monde peut y aller, en fin de compte, hein. Et donc, en 2023, le pèlerinage a atteint le chiffre record de 16 000 inscrits. Alors, faut s'inscrire au pèlerinage, hein, par Internet. Et les organisateurs ont été contraints, donc, en 2023, de clore les inscriptions 15 jours avant le pèlerinage.
Le pèlerinage de la chrétienté, un pèlerinage qui s'est inscrit dans l'histoire et qui fonctionne bien en 2023.
Absolument.
Merci Jean-François Boulanger de nous l'avoir présenté. Peut-être que la semaine prochaine, on continuera de parler de Chartres.
Encore un peu, oui.
Encore un petit peu. À bientôt Jean-François.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Et à 18h22, on part dans les crêtes pré-ardennaises à Launois-sur-Vence ce mardi, rencontrer le maire de la commune, Yannick Lombard, qui nous parle à votre micro, Jean-Pierre.
Yannick Lombard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai, Yannick Lombard, vous êtes maire depuis peu de temps, mais vous avez toujours été dans le conseil municipal.
Voilà, donc j'ai été élu aux dernières élections de 2020 comme maire, mais j'ai fait un mandat en tant qu'adjoint au maire lorsque j'ai pris ma retraite en 2013.
Alors combien d'élus dans votre équipe municipale, votre équipe communale, Yannick Lombard ?
La communale se compose, comme c'est un village de 700 habitants, hein, de 15 élus. Hein, de 15 élus, et nous sommes rattachés maintenant à la communauté de communes de Poitéron.
Alors vous avez une volonté quand même pour votre commune dans le monde rural à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Vous voulez qu'elle soit attractive ?
Oui, bien sûr. Alors notre volonté est de faire vivre notre commune en la rendant naturellement attractive, en proposant des activités par le monde associatif qui s'est créé, qui est très actif actuellement, hein, avec les clubs de football, des différentes associations qui s'occupent de la chorale, du dessin, de la marche, du bricolage, de la couture, bientôt des réunions pour les personnes isolées, des voyages. Et en plus, nous avons la chance d'avoir l'office de tourisme des Crêtes Préardennaises, hein, donc avec les activités de l'office de tourisme qui est implanté à Launois-sur-Vence, ainsi que l'office d'animation des Crêtes Préardennaises pour les animations aussi dans la commune et dans les communes environnantes.
Alors pouvez-vous nous présenter cette commune de Launois-sur-Vence ? Combien d'habitants aujourd'hui ? Donc vous l'avez dit, un peu plus de 700 en gros.
Voilà, c'est ça. En gros, nous avons 700 habitants, hein, des Launoisiens et des Launoisiennes. Hein. Nous nous situons à peu près à mi-chemin entre Rethel et Charleville-Mézières et nous sommes à 5 km de l'autoroute A34.
Alors justement, quand on est sur l'autoroute en ce moment, A34, il y a des panneaux qui nous mettent en évidence Launois-sur-Vence, parce que le tourisme, c'est important pour vous.
Oui, bien sûr. C'est une commune typiquement rurale, on est axé en partie sur le tourisme, hein, étant donné qu'on a la chance d'avoir dans notre commune, qui est labellisée village-étape, grâce surtout à son église du XIIe siècle, et le relais au poste aux chevaux, qui date du XVIIe siècle. C'était l'époque où les diligences s'y arrêtaient et les voyageurs s'y restauraient. Et l'intérieur, c'est une véritable cathédrale de poutres. Le bâtiment est l'œuvre des compagnons charpentiers ardennais de l'époque. Actuellement, il est encore intact. Repris par la communauté de communes, il a été restauré. Il accueille à peu près 60 000 visiteurs par an, relevés par l'Office de tourisme, et il est inscrit au monument historique.
Alors il y a, pour y aller de temps en temps, des manifestations, il y a même un centre équestre à l'intérieur, évidemment.
Tout à fait. Alors au départ, il y a eu un centre équestre qui a été créé, dédié aux chevaux ardennais. Maintenant, il propose des balades en calèche, il forme des personnes au métier ayant au trait du cheval ardennais. Ce relais maintenant est régulièrement occupé et il accueille diverses manifestations. Donc on a toujours le fameux marché des antiquaires qui a été créé depuis X années, hein, tous les mois. Le marché paysan, chaque mois, diverses manifestations culturelles, gastronomiques. La prochaine, fin novembre ou début décembre, on aura le relais du Père Noël.
Ça veut dire que vous êtes toujours branché sur ce qui se passe, sur l'actualité, sur les événements. Et j'ai souvenir tout de même qu'il y a une petite pancarte dans ce relais. Et c'est qu'on met le temps qu'on mettait pour le courrier de venir de Paris et d'arriver à l'Aulnoye. C'était le relais des postes à cheval. Ça, c'est quand même assez impressionnant de voir cette pancarte.
Oui, tout à fait. C'est vrai que le relais, il n'y en a plus que deux en France, donc c'est un des deux qui reste en France, et le nôtre est parfaitement intact. Ce relais, effectivement, servait de relais de poste, hein. Il y avait la malle au poste, et il rentrait par l'entrée principale qui se trouve côté route, hein, l'accès principal. Et les gens ont changé les chevaux, ils repartaient, c'était une route qui repartait après pour Anvers, donc vous voyez, ça allait jusqu'à assez loin, et c'était la route la plus pratiquée. Donc l'Aulnoye est devenu un carrefour aussi de commerce dans le temps.
Alors, c'est vrai, Jeannick Lombard, vous qui êtes maire de l'Aulnoye-sur-Vence, vous mettez l'accent sur le tourisme. C'est vrai aussi que j'ai entendu dire, je l'ai déjà vu et je m'y suis même arrêté, à la brasserie Ardouen, qui est fabriquée, cette bière ardennaise à l'Aulnoye.
Oui, nous avons également la brasserie Ardouen, oui, bon, maintenant, qui est très renommée, puisque ça va au-delà de nos frontières, hein, donc elle est très appréciée, elle a des primes. Je sais que l'année dernière, ils ont même eu un prix aux États-Unis. Donc voilà, c'est une bière qui est très, 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 très appréciée. Bon, pour nous, c'est une vitrine.
Absolument. Alors, voilà. Justement, avec votre équipe communale, votre conseil municipal, vous avez entrepris sans doute des travaux pour améliorer la vie du village à l'Aulnoye en ce moment.
Oui. Actuellement, si vous passez dans le village, vous allez voir qu'il y a des travaux dans toutes les rues. Depuis un an, la commune, avec les communautés de communes des Crêtes Préartanaises, nous avons attaqué l'assainissement. L'assainissement qui était une nécessité. Donc l'assainissement vient d'être mis dans tout le village, donc il se termine actuellement. Et là, pour ma part, je fais la réflexion, enfin la commune, on fait la réflexion des trottoirs, avec, dans la foulée, une création d'une aire de camping-car, hein, puisque c'est pas moins de 600 camping-caristes par an, hein, qui passent dans le village. Comme il y a déjà une station de vidange existante, et puis qui peuvent, voilà, à proximité,
ça, il y aura... C'est formidable.
Voilà, on
alors,
aura juste à côté.
Il faut dire que vous êtes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, très proche de la 34. Il suffit de sortir à Voynic, et on est très très proche de l'Aulnoye. Mais j'ai entendu dire aussi qu'il y a un groupe scolaire qui était entièrement rénové en ce moment.
Oui, nous avons rénové le groupe scolaire qui porte le nom de Jules Marie, hein, c'était l'écrivain dramaturge, hein, qui est né en 1851 à l'Aulnoye-sur-Vence justement. Le groupe scolaire regroupe 120 enfants, dont une partie viennent des villages avoisinants. Hein, il était entièrement rénové pour pouvoir offrir à mes élèves, aux enfants de la maternelle au CM2, des conditions, aussi qu'aux enseignants, des conditions de travail très satisfaisante, puisque nous avons créé des classes numériques. Toutes les classes sont équipées de TBI.
D'ordinateurs.
Voilà. Et puis même maintenant, ils travaillent tous sur des tableaux interactifs, hein, ce qui est quand même pas mal. Une cantine qui était maison avec des produits locaux, puisque nous avons la chance d'avoir
des produits, oui, bien sûr.
D'avoir des produits locaux.
Et puis une garderie, je crois, hein.
Voilà, on a une garderie avec une amplitude horaire qui part du matin de très bonne heure jusqu'au soir, jusqu'à 19h, qui permet aux parents qui travaillent sur Charleville ou ailleurs, de nous confier leurs enfants pour la journée.
Dans les secondes qui nous restent, c'est la question traditionnelle que je pose à tous les maires. Est-ce que vous êtes un maire heureux? Qu'est-ce que c'est qu'être maire pour vous, Jeannick Lombard?
Je vais pas vous dire que je ne suis pas heureux parce que j'aime ce que je fais. Donc être maire, pour moi, c'est avant tout une notion de service public, hein, rendre le service, se dévouer pour faire vivre une commune tout en ayant une gestion saine et raisonnable, hein, malgré les difficultés des dernières années que nous avons eues avec le Covid et puis tout ça. Voilà, sans prétention, voilà, j'ai humblement...
votre contribution.
Voilà, j'apporte ma contribution et puis surtout, j'ai à répondre surtout de mes actes pour
Merci.
Mes administrés. Voilà.
Merci en tout cas, Jeannick Lombard, d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes le maire de Launois-sur-Vence dans le département des Ardennes. Et puis, à très bientôt sur RCF.
Ah ben, je vous remercie, Jean-Pierre.
Et à 18h30, passé de 40 secondes, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce mardi 14 novembre 2023, aujourd'hui est la journée mondiale du diabète. 4 millions de Français sont identifiés comme diabétiques par l'assurance maladie. Portrait croisé de Lilou et Gérald. Le collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne a obtenu le label Ouverture Internationale, un label qui récompense le travail de l'équipe pédagogique autour des langues notamment.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le premier nom de la programmation de l'éco-festival Cabaret Vert 2024 à Charleville-Mézières a été dévoilé ce matin. C'est PJ Harvey, une icône du rock qui montera sur scène le 15 août. L'édition 2024 du Cabaret Vert se tiendra du 15 au 18 août prochain. Depuis 1991, le 14 novembre est identifié comme la journée mondiale du diabète. Il s'agit de la principale campagne de sensibilisation au diabète sucré. 4 millions de Français sont identifiés comme diabétiques par l'assurance maladie, avec une proportion de diabète type 2 qui explose quel que soit l'âge, principalement en raison de l'augmentation de personnes en surpoids ou obèses due à une mauvaise alimentation et une inactivité physique. Mais les causes peuvent aussi venir d'ailleurs. Lilou a fait du diabète gestationnel et n'a pas été suffisamment surveillé après sa grossesse. Depuis près de 30 ans maintenant, contrôler son diabète fait partie de son quotidien.
Bien sûr, je contrôle chaque matin mon taux de glycémie. Et si mon taux augmentait trop fort, alors je peux augmenter un petit peu mon insuline. Mais c'est pour ça que je surveille très fort mon alimentation. Et le fait de bouger beaucoup, parce que ça aide beaucoup de bouger, ce qui me permet de ne pas du tout augmenter mon insuline depuis déjà plusieurs années.
Suivi régulier par un médecin, alimentation saine en petite quantité, manger à des horaires fixes, pratiquer un peu d'activité physique, ce sont quelques-unes des attentions permanentes auxquelles les diabétiques doivent être vigilants. Un message pas toujours évident à faire passer pour Lilou.
Ce qui a été pour moi le plus difficile à gérer, c'est les invitations. Parce que quand vous êtes invité à un repas, on vous prépare des bonnes choses à manger qui sont trop caloriques. Il y a des desserts sucrés. On boit aussi l'apéritif. Tout ça, c'est traditionnel, ça fait partie de la vie. Sauf que pour nous, les diabétiques, ben, c'est pas très bon. Alors, ça a été difficile au début de convaincre l'entourage, la famille, les amis, que ben, moi, je me limite et je ne consomme pas forcément ces choses-là, ou en tout cas en quantité plus restreinte. Puis maintenant, ben, tout le monde a compris. Et ça ne choque plus personne si je dis « ne m'en veux pas, mais je ne prendrai pas de part de gâteau au chocolat ».
Un témoignage dans lequel se retrouve Gérald, qui préfère même parfois carrément décliner les invitations.
Je n'y vais pas, parce qu'en fait, une fois qu'on a appliqué l'insuline, il faut manger. C'est-à-dire que souvent, dans des repas festifs, ben, vous avez l'apéro. Et ben, vous n'y avez pas droit à l'apéro. Donc, il faut attendre. Et attendre, ben, l'organisme lui dit, ben, non, je ne peux pas attendre, il faut que je mange. Et c'est pour ça que souvent, eh ben, on se prive de festivités, quoi.
Autre difficulté notoire, le changement d'heure. Par exemple, pendant 4 jours, les personnes diabétiques décalent leur repas de 15 minutes pour caler leur organisme sur la nouvelle heure. Cependant, le diabète ne doit pas faire peur. L'essentiel est de se faire dépister et, si possible, correctement. Gérald apporte quelques précisions.
À chaque fois qu'à Vitry, il y avait l'association des diabétiques de la Marne qui venait, je faisais partie des testeurs et non pas des testés. Et en fait, ce n'est pas simplement la petite goutte de sang sur le doigt qui va vous alerter, c'est tout le reste qui va avec. Parce qu'en fait, on vous teste, on vous demande pas à quelle heure vous avez mangé, etc. Donc, en fonction de votre goutte de sang sur le doigt, on va vous dire, vous avez tant. Ah, bah, vous ne l'êtes pas, ou vous l'êtes, mais tout dépend de l'heure à laquelle vous avez mangé.
Gérald Elilou, qui était au micro de RCF France Ardennes, pour vous faire dépister, parlez-en à votre médecin traitant ou auprès d'un diabétologue dans les hôpitaux près de chez vous. Après les chalets de Noël, c'est maintenant la traditionnelle grande roue qui est arrivée à Reims. Elle a été finie d'installer cet après-midi sur la place d'Erlon. Déjà expérimentée depuis 2013 dans plusieurs diocèses, avec 106 établissements labellisés, le label Ouverture Internationale est accessible depuis 2021 à l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique de France, de la maternelle au supérieur. En juin 2023, Vincent Giot, directeur du collège Notre-Dame de Chalon, a reçu le label Ouverture Internationale niveau 2 pour son établissement.
C'est un label qui est décerné par l'enseignement privé catholique national et qui remarque que les établissements qui sont ouverts vers les autres, en fait, on entend les langues derrière l'international dans un établissement scolaire. En fait, ça n'est pas que ça, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture à la différence, la connaissance de l'autre. Et puis, effectivement, il y a ce côté langue avec le renforcement de l'apprentissage des langues, la possibilité d'aller dans les pays étrangers, et ça concerne aussi les adultes. Ça nous apporte déjà une reconnaissance de ce qui est fait à l'intérieur de l'établissement. Et la deuxième chose, c'est une reconnaissance des familles qui vont regarder ce label de l'extérieur sur le fait qu'on est attentif à cette orientation vers l'autre.
Dans l'Académie de Reims, 17 établissements sont déjà labellisés. Pour Vincent Giot, il ne s'agit pas d'une course au label, mais d'un accompagnement dans des projets d'ouverture internationale.
Il y a un niveau 3 qui est vraiment dans la spécialisation d'un domaine, par exemple, qui serait peut-être, je sais pas, la mobilité des adultes à l'étranger. C'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est voilà ce qu'on fait pour les langues, voilà ce qu'on fait tourner vers les autres, vers la découverte d'autres cultures, vers l'acceptation des différences. Il y a aussi un volet développement durable. Le fait d'avoir le niveau 2, ça labellise, c'est le cas de le dire, ce qu'on fait à l'intérieur de l'établissement.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Faustet. Nous y reviendrons plus longuement dans les prochains jours à travers l'émission hebdomadaire Réenchanter l'école sur RCF. À noter que le collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne ouvrira ses portes ce vendredi de 16h30 à 19h30 et samedi de 9h à midi. Le projet de fusion entre l'association Club Sportif Sedan Ardennes et Prix-les-Mézières et l'Olympique de Charleville-Mézières prend forme, doucement mais sûrement, à en croire les confidences du président pyrisien Géry Zucari. Chez nos confrères de Radio 8, le futur club à envergure départementale disposerait d'un budget d'1,2 million d'euros. Le projet devrait être déposé d'ici la fin de l'année devant les instances de la Fédération française de football. Par ailleurs, l'ancien président du CSSA, Marc Dubois, a été interdit d'exercer toute fonction dans le football pour 3 ans suite au dépôt de bilan du club dont il était à la tête cet été. Il a annoncé par la voix de son avocat faire appel de cette décision. Côté terrain, 6e journée de Liga de volet ce soir à 19h30, Chaumont se déplacera à Nancy. Ainsi se referme le journal du 18-19 en Champagne-Ardenne. L'émission continue tout de suite.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Dans cette deuxième partie d'émission du magazine régional, on revient sur une actualité qui a eu lieu aujourd'hui. Manon Bréval, notre stagiaire, y a participé. Bonjour Manon.
Bonjour Alexis.
Ce midi, tu as pu assister à une messe pour les curieux organisée par l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Dis-nous en plus, de quoi s'agit-il ?
Alors effectivement, ce midi dans la chapelle de l'ICP, j'ai pu assister à cette messe. Alors pourquoi messe pour les curieux ? Donc cette messe avait pour but de faire découvrir comment se déroule une cérémonie avec ceux qui ne connaissent pas, donc ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui ne viennent pas à la messe ou ceux qui y vont très peu. Donc au début de ce rendez-vous, les jeunes de l'aumônerie nous ont présenté le concept, puis la première étape, qui se nomme l'accueil. Donc après chaque explication de l'étape, on effectuait ce qui a été expliqué comme dans une messe de base. Donc la deuxième étape, c'est la préparation pénitentielle. Ensuite, on entame la troisième étape qui s'appelle la lecture de l'évangile et l'homélie. On poursuit avec la quatrième étape qui est la prière eucharistique qui laisse place à la cinquième étape, la communion. Ça nous laisse finir par l'envoi. Donc ça, c'est les 6 étapes dont j'ai eu la chance d'avoir des explications et vivre les temps forts ce midi.
Effectivement, vous avez eu la chance avec d'autres étudiants de l'Institut catholique de Paris Campus de Reims. Vous étiez combien à peu près ce midi réunis, Manon ?
On devait être une quinzaine aux alentours.
Alors on imagine qu'il y a beaucoup de spécificités dans ce type de célébration tout de même.
Effectivement, il y a beaucoup de détails qui sont très importants. Et donc, si vous, cher auditeur, vous souhaiterez en connaître plus, n'hésitez pas à aller en parler à un prêtre ou à un responsable de la pastorale.
À la suite de cette messe pour les curieux, est-ce qu'on en est resté là ou est-ce qu'il y a eu une invitation à aller plus loin peut-être ?
Après ce temps fort, on s'est rendu au 4L. C'est un espèce de bar où les jeunes de 18 à 25 ans ils peuvent se réunir tous les jeudis soirs avec des tarifs assez intéressants. Ce qui fait que pour les étudiants, bah, c'est super cool. Donc c'est également aussi le lieu de rencontre et de partage de l'aumônerie. On a donc pu échanger un repas autour d'une crêpe partie où on a pu apprendre à nous connaître tout en nous régalant. Donc il y a des rendez-vous comme ceci qui sont organisés pour et par les jeunes de l'aumônerie de l'ICP à peu près toutes les deux semaines.
Eh bien merci Manon de nous avoir présenté ce rendez-vous et de comment vous avez vécu ce grand temps fort aujourd'hui. On vous dit à très bientôt, peut-être dès demain sur l'antenne de RCF.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h41, l'association Métamorphose organise ce vendredi 17 novembre à la chapelle de Saint-Mémy un spectacle Trilogie des Arts. Cette soirée sera au profit de l'association Ensemble par Enfant 10 51. Pour nous en parler, Delphine Prouvelic et Catherine Rousseau au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten.
Delphine Prulovic, bonjour.
Bonjour Christopher.
Vous êtes la présidente de l'association Ensemble Parents Enfants 10-51, accompagnée de Catherine Rousseau, bonjour.
Bonjour Christopher.
Secrétaire de l'association Métamorphose, merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de RCF Cœur de Champagne pour nous présenter à la fois vos associations, mais aussi l'intérêt, l'objectif de cette soirée du 17 novembre prochain du côté de la chapelle Saint-Mémy. Ma première question, Catherine Rousseau, comment est venue l'idée de collaborer avec ces deux associations autour de cette soirée du 17 novembre?
Eh bien, régulièrement, donc, tous les ans, nous faisons un spectacle. Et chaque année, on recherche une association à aider. Et l'idée est venue de Catherine Ferté-Devin, qui était pédiatre, qui nous a orientés sur Delphine et son enfant Stan.
Delphine?
Oui, en effet. J'ai rencontré Catherine Ferté-Devin il y a presque un an. Je faisais donc une opération de financement pour une opération de myoténofasciotomie en Espagne pour mon fils. Et dans ce cadre, je recherchais donc des fonds. Et par le biais des réseaux sociaux, j'ai été contactée par Catherine Ferté-Devin pour échanger sur le sujet. De là, elle s'est intéressée au sujet de la paralysie cérébrale et on collabore ensemble dorénavant.
Voilà. Alors on parlera de votre association, de votre fils dans un court instant, Delphine Prulovic. Parlons dans un premier temps de l'association Métamorphose, Catherine Rousseau. Vous venez de le dire il y a quelques instants, une association qui est là pour réaliser des spectacles, pour aider des associations. C'est bien résumé?
Oui, très très bien. Bon, c'est une association qui existe depuis 2016.
Oui.
On a déjà eu plusieurs trilogies puisque le thème est artistique. Il est autour du président Carlos Carrillo. Et on fait appel donc à des artistes qui donnent de leur temps pour nous aider à réaliser un spectacle et aider une association.
Alors quel spectacle?
Alors quel spectacle? Bon, on a Carlos qui est quand même notre sculpteur de renommée internationale présent qui nous aide à chaque fois.
Oui.
Et on a pu faire appel à Fred Chapelier qui revient là, qui nous a déjà aidé. Nous avons déjà eu l'intervention de peintres, il y a eu Yannick Varlet, monsieur Colson, et on a aussi eu l'intervention d'artistes de circassiens. Enfin, à chaque fois on essaye de monter un spectacle avec trois orientations artistiques. Et puis voilà, on est tous en synergie pour aider cette année Delphine Estana.
Une association chalonnaise?
Oui, tout à fait. Nous sommes une dizaine à être dans cette idée, à nous réunir. Et nous avons déjà pu aider un enfant trisomique. C'était pour l'association Acropole. Nous avons aussi aidé un orphelinat au Bénin. Il faut aussi que je parle de Romain Changenot qui nous a beaucoup aidé l'année dernière. On a là donc un creuset de gens qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie pour aider.
Et donc cette année, vous aidez l'association Ensemble Parents Handi 51, où on a la présidente d'ailleurs, Delphine Prulovic, avec nous. Alors présentez-nous un petit peu votre association, votre histoire à vous, Delphine.
Eh bien, donc en juin dernier, en 2022, j'ai créé cette association-là. Pourquoi ? Ben parce que j'ai déjà un enfant qui est atteint de paralysie cérébrale et c'est une cause qui est encore méconnue. Aujourd'hui, un handicap qui est méconnu et donc je souhaite vraiment faire connaître son handicap par l'association et pouvoir accompagner les familles qui sont intéressées par le sujet ou des enfants voilà sont atteints de ce handicap. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, 4 bébés naissent tous les jours atteints de cet handicap. C'est la première cause moteur pour les jeunes enfants. Et c'est souvent lié à une naissance prématurée ou à un accouchement difficile. Ça engendre des troubles psychologiques, neurologiques ou sensoriels. Et donc, de ce fait, étant maman, ayant cherché beaucoup d'informations et j'ai jamais trop trouvé d'échanges, oui. De contacts, etc. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire de créer cette association-là, de la faire vivre, d'aider les parents, les jeunes et aussi d'aider les enfants dans leur état moteur.
Quand vous dites aider, c'est... Les accompagner, les écouter.
C'est ça, accompagner, les écouter, les ressourcer,
les conseiller aussi.
Les conseiller oui. Également. Pourquoi pas aussi les aider financièrement un jour pour avoir recours à une chirurgie en Espagne comme moi je l'ai fait pour mon fils qui est assez coûteuse. Et voilà, c'est pouvoir aider tout le monde dans ce parcours du handicap qui est encore méconnu et la faire vivre quoi.
Donc vous avez créé cette association il y a un an, vous avez eu des retours justement des parents qui avaient besoin d'aide comme oui. Vous avez eu besoin d'aide.
Oui, on est nombreux à attendre des échanges de parcours, d'aide pour l'orientation, pour la pédagogie, pour l'école, pour plein de choses et on est un petit peu livrés à nous-mêmes. Et du coup, j'ai pas mal d'échanges sur les réseaux sociaux, même dans les instituts ou dans l'institut où est mon fils. Voilà, on échange entre mamans, entre parents, et on a vraiment un besoin d'échange, un besoin de tout ça. Donc voilà, par exemple, je vais essayer de mettre en place des rendez-vous parents-enfants dits dans des structures pour échanger, pour construire vraiment un réseau et aussi faire connaître ce handicap lors de la journée nationale donc de la paralysie cérébrale qui a lieu le 5 octobre oui. Pour l'année prochaine. Voilà, essayer de faire vivre la sauce via des événements pour faire connaître le handicap et surtout voilà pour construire un réseau entre parents pour faire évoluer nos enfants.
Alors vous avez créé cette association pour accompagner les parents qui sont dans la même situation que vous. Donc vous êtes là, vous répondez à ces attentes. Est-ce que vous avez trouvé un petit peu de l'accompagnement depuis, des aides, des écoutes aussi, parce que ça marche dans un sens, mais ça marche peut-être dans l'autre aussi. Vous en avez peut-être besoin.
Alors mon fils aujourd'hui il a 14 ans, donc il est quand même un peu plus grand. Donc moi j'attends aussi des retours de parents avec des enfants plus âgés pour l'orientation, pour tout ça. Évidemment j'ai encore plein de questions. Hein. Ça je pense que ça sera pas tout au long de sa vie, mais bon, une bonne partie. Donc oui, j'ai des retours d'expérience qui me permettent d'avancer aussi de mon côté et inversement.
En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites et l'investissement que vous mettez pour à la fois pour vous, pour votre fils, mais aussi pour l'entourage. Voilà, pour les parents, voilà, qui se sentent dans la même situation que vous. Alors, on va parler maintenant de cette soirée hein, qui est au profit de l'association Rappel Ensemble Parents-Enfants 10-51, organisée par l'association Métamorphose, qui sera organisée le 17 novembre prochain, 20h, en la chapelle de Saint-Mémy, toujours avec nos deux invités, Delphine Prulovic, présidente de l'association Ensemble Parents-Enfants 10-51 et de Catherine Rousseau, secrétaire de l'association Métamorphose. En quelques mots, Catherine Rousseau, intéressons-nous sur l'organisation de cette soirée. Comment elle va se dérouler?
Bon, de toute façon, donc, nous vous donnons rendez-vous une fois encore le 17 novembre 2023 en l'église La Chapelle de Saint-Mémy à 20h. Donc le spectacle, c'est Fred Chapelier qui va... essentiellement donc nous emmener dans le blues et vous aurez pendant ce temps-là Carlos qui va monter une sculpture hein, Et d'autre part, on a Mig, qui est notre troisième intervenant, qui est un graffeur, qui va nous faire un panneau de 2,50 m sur 1,25 m. Donc, il sera déjà un petit peu établi, parce que bon, le graphe, c'est quand même des odeurs et des vapeurs, des vaporisations. Donc, il aura déjà un peu grimpé le panneau, et il le peaufinera en direct au cours de la soirée. Donc voilà, on est sur autour de ces trois thèmes-là. Et à la fin, donc, il y aura une loterie qui permettra de gagner en lot la sculpture que Carlos aura créée à ce moment-là, une partie du panneau que Mig aura peint. Et il y aura également des paniers réalisés par la Maison de Port qui sont magnifiques. Hein. Bon, si vous n'aimez pas l'art, vos papilles seront quand même satisfaites. Donc, et potentiellement d'autres lots. Donc, ben, on vous attend nombreux pour nous aider. Car vraiment, ça nous tient à cœur d'aider Delphine.
Voilà, Delphine.
Qui est une maman extraordinaire.
Alors, on invite bien sûr nos auditeurs le 17 novembre pour participer au profit de l'association Ensemble par Enfant 1051. Oui. Pour les auditeurs qui ne peuvent pas y assister, il y a la possibilité d'y participer malgré tout.
Oui, si vous êtes dans la possibilité de venir pour n'importe quelle raison, nous mettons en vente des billets de tombola à 5 €, qui permettent de gagner donc tout ce que nous avons évoqué. Et vous pouvez éventuellement me contacter via une boîte mail qui s'appelle metatrilogie@gmail.com afin qu'on puisse échanger et puis s'arranger pour conclure à l'achat de tickets. Sinon, bien évidemment, les achats de tickets de tombola et de billets d'entrée se feront le jour même.
Merci Delphine Prulovitch, Catherine Rousseau et Christopher depuis les studios de RCF à Châlons en Champagne. La recette de cette soirée sera reversée totalement à l'association Ensemble Parents Handi 51 qui œuvre au niveau du handicap et qui a pour vocation d'aider les enfants atteints d'insuffisance cérébrale motrice ainsi que leurs familles. Dans quelques instants à 18h52, on fait un zoom sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est dans toute la France la semaine prochaine.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Avec nous par téléphone, Damien Lerouge, chargé de communication pour Cap Emploi. Il est avec nous pour présenter la troisième édition Village Handicap. Ça va se passer à Charleville-Mézières. Damien Lerouge, bonjour.
Bonjour Alexis.
Une manifestation organisée dans le cadre de la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cette semaine, elle va se dérouler à partir du lundi 20 novembre jusqu'au dimanche 26 novembre. Juste pour poser le contexte, Damien Lerouge, cette semaine, elle consiste en quoi concrètement ?
En fait, cette semaine, elle consiste à favoriser l'emploi des personnes handicapées. Du coup, chaque année, on a une semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées dans toute la France et dans tous les départements de France.
Et donc, c'est à l'occasion de cette semaine que vous allez vous organiser ce village que vous organisez régulièrement avec Cap Emploi, évidemment, et la ville de Charleville-Mézières, ce village handicap.
C'est ça. Du coup, pour la troisième année consécutive, on organise du coup le village handicap qui se déroulera le mercredi 22 novembre au marché couvert de Charleville-Mézières, donc en partenariat avec la ville de Charleville-Mézières, et puis le réseau des entreprises s'engage.
Et comment ça va se traduire concrètement ce village, Damien Lerouge ?
Alors en fait, cette année, il y a une thématique nationale, hein, comme tous les ans. Donc la thématique cette année, c'est la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc du coup, on a construit cette nouvelle édition du village handicap 3.0, puisque elle est numérique cette année, c'est la troisième édition. Donc voilà pourquoi on l'a appelé le village handicap 3.0. Elle s'organise autour des partenaires du coup du numérique, et c'était à nous de proposer des espaces en lien du coup avec la thématique de cette année.
Justement, Damien Lerouge, en tant que chargé de communication pour Cap Emploi, vous parlez d'espaces en lien avec la transition numérique. Si je ne dis pas de bêtises, il y aura trois espaces cette année.
C'est ça, il y aura trois gros espaces cette année. Donc, il y aura un espace employeur avec des employeurs du numérique, mais aussi des employeurs du secteur privé et public. Il y aura un espace de fournisseurs de compensation numérique. C'est du matériel de compensation accessible pour les salariés, du coup, qui sont en situation de handicap dans leur entreprise et qui ont besoin, à un moment donné, de matériel de compensation sur leur poste de travail. Et puis, il y aura un espace numérique et accès aux droits, du coup, avec des partenaires qui viendront présenter du coup les dispositifs qui existent dans nos structures pour justement déposer en ligne un dossier, puisqu'on sait maintenant que beaucoup de choses se font par ordinateur et sur informatique ou par téléphone, sur une application. Donc c'est aussi aux partenaires de venir expliquer aux demandeurs d'emploi, et pas que aux demandeurs d'emploi, aussi à toutes les personnes qui pourront être présentes sur le village, comment procéder pour déposer un dossier, par exemple, à la MDPH, déposer un dossier en ligne. Voilà.
L'objectif de ce village, si on comprend bien Damien Lerouge, c'est aussi, j'allais dire, de créer une sorte de cohésion, de créer de l'échange, du partage, d'être un lieu de rencontre pour ceux qui, au quotidien, ne vont pas justement à la rencontre de personnes qui pourraient être en difficulté, pas dans l'insertion pour l'emploi notamment.
Oui, c'est ça, exactement. Donc cette année, il y a 82 partenaires qui sont présents. Donc c'est quand même important, enfin on va dire, voilà. Et ça permet du coup aux demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap, mais pas que, parce que ça peut être aussi une famille qui a besoin d'informations et qui a besoin de ces informations, ils peuvent venir également sur le village. Donc du coup 82 partenaires avec des employeurs, et les demandeurs d'emploi pourront directement rencontrer des employeurs et déposer leur CV auprès des employeurs présents. Et puis, ce qui permet aux employeurs de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap ou pour leur futur recrutement, d'avoir un vivier de candidature sous la main pour, quand ils doivent recruter, d'avoir rencontré telle ou telle personne sur le village. Ça pourra permettre justement à des personnes de retrouver un emploi.
Justement, puisque l'on parle des entreprises présentes, des partenaires qui seront avec vous, ce village, il est organisé par Cap Emploi 08, dont vous êtes au chargé de communication, Damien Lerouge, également avec la ville de Charleville-Mézières. Et pour organiser cette manifestation, vous êtes aux côtés du réseau, les entreprises s'engagent. Là aussi, c'est un engagement important, j'allais dire, qui est fait de la part des entreprises du territoire.
Oui, c'est ça. Tout à fait, ce partenariat qui existe depuis 3 ans sur l'édition du Village Handicap, du coup, nous permet d'avoir un bel événement d'ampleur également sur Charleville. Et sachant que cet événement, c'est le seul événement sur le département, c'est le seul temps fort, du coup, pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc, on est ravis de pouvoir avoir ce partenariat avec la ville de Charleville et le réseau des entreprises s'engage.
Et les entreprises qui viennent, puisque vous le dites que c'est le seul événement sur le département, elles sont vraiment basées à Charleville-Mézières, j'allais dire sur le territoire d'Ardanne Métropole, peut-être d'une façon générale, ou est-ce que l'on balaye vraiment tout le département des Ardennes ?
Non, on balaye vraiment tout le département des Ardennes, pas uniquement l'agglomération, mais tout le département, effectivement.
Et puis, vous parliez de venir avec un CV, une lettre de motivation pour le distribuer au sein des entreprises présentes. Est-ce que vous, à votre échelle, Damien Lerouge, vous avez peut-être des conseils, des choses, j'allais dire, qui fonctionnent un petit peu plus lorsqu'on voit la rencontre d'un employeur pour faciliter l'insertion, des éléments à me présenter sur le CV, dans la lettre de motivation, peut-être ?
Chacun a travaillé déjà son CV en amont, hein, puisque chaque demandeur d'emploi a aussi du coup la possibilité de travailler son CV dans les agences Pôle emploi, avec les conseillers Cap emploi ou dans d'autres structures. Du coup, on invite vraiment les personnes à venir avec leur CV parce que c'est important, si on rencontre un employeur, de pouvoir laisser ses coordonnées pour pouvoir être rappelé si un employeur a besoin de recruter quelqu'un dans un futur proche. Donc voilà, on conseille vraiment de venir avec son CV. Et puis, il y aura aussi, par exemple, un atelier numérique avec Cap Emploi, du coup, où les personnes pourront déposer directement leur CV sur le site internet de Cap Emploi Ardennes. Et ces CV-là sont après mis sur le site internet et consultables des employeurs également. Voilà.
Eh bien, ça fait pas mal d'initiatives à retrouver lors de cette journée qui se déroulera le mercredi 22 novembre, le Village Handicap 3.0, aux côtés du réseau Les Entreprises s'engagent avec Cap Emploi 08 et la ville de Charleville-Mézières, et puis l'ensemble des partenaires associés, évidemment. Le rendez-vous mercredi 22 novembre de 9h30 à midi et de 13h à 16h30. C'est au marché couvert 33 rue du Daga à Charleville-Mézières, à l'occasion de la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, semaine qui débutera dès le lundi 20 novembre et qui se poursuivra jusqu'au dimanche 26 novembre. Merci Damien Lerouge, chargé de communication pour Cap Emploi, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce très bel événement dans la cité Charles de Gonzague. À bientôt.
Merci Alexis, à bientôt.
Et nous, sur les antennes de RCF, on aura plaisir à également vous présenter les autres initiatives en région d'ici la fin de semaine et tout au long de la semaine prochaine. 18h59 dans le magazine régional, une petite minute pour vous dire au revoir et puis pour vous dire aussi ce qu'il se passera demain. On se retrouvera à 18h10 avec un nouveau magazine régional. Fernand Tavares notamment décryptera l'actualité politique. Un maire qui vous parle, ce sera Anoudar, maire de Poitéron, qui sera au micro de Jean-Pierre Benoît dans ce magazine régional. Elle le sera dès demain midi sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes. Voilà pour le programme. Quant à moi, il vous reste le temps désormais de vous souhaiter une très bonne soirée. C'était Fabrice Gironet à la mise en onde ce soir. On vous dit à demain. Tout de suite, l'information nationale prend le relais.